Vendredi Théâtre, l'émission consacrée au théâtre, à l'actualité théâtrale sur Montpellier. Florent Robin au micro et je suis avec les chroniqueurs de Vendredi Théâtre. Nous avons Tito. Bonjour Tito.
Bonjour.
Un petit peu enroué peut-être, puisqu'il y a une mauvaise bronchite qui te poursuit. Et nous sommes avec Christopher. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Alors, un premier plateau avec un spectacle qui se déroule au Domaine d'eau qui s'appelle Habillage. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Anna Delbos Zamor. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes donc la metteuse en scène de ce spectacle.
Oui.
On dit metteuse en scène ou metteur en scène ? J'ai jamais su.
On dit ce qu'on veut. Moi, j'aime bien metteuse.
Alors, metteuse en scène. Alors, Habillage, c'est donc un spectacle autour des grisettes.
Oui.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une grisette ?
Qu'est-ce que c'est qu'une grisette ? Un bonbon à Montpellier,
oui.
D'abord. Un petit oiseau.
C'est vrai aussi.
Une figue. Mais surtout, une femme. La définition du dictionnaire, je crois, c'est jeune fille ou jeune femme aux mœurs légères, petite couturière, monteuse de bonnets du 19e siècle.
On est en plein dans le 19e siècle, ce qui me fait tout à fait plaisir, puisque les auditeurs le savent. Je suis très 19e-iste et amoureux de la littérature du 19e siècle.
Nous sommes deux.
Voilà. Tito, Christopher, vous avez vu la pièce. Est-ce que vous pouvez commencer un petit peu à nous dire quelques mots sur ce spectacle ?
Je ne sais pas si Tito trépigne d'impatience. Ou...
Vas-y, Christopher.
Alors, je trouvais que c'était un spectacle qui était très dynamique, puisque, on peut le dire, il est sous forme de cabaret rock cancan.
Oui.
Donc, il y a la présence de musiciens. Et aussi un spectacle qui tente d'aborder et qui aborde surtout beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, j'ai l'impression, à travers le thème des grisettes. Des thèmes qui vont à la fois du glamour,
oui.
À des thèmes plutôt militants.
Oui.
Je trouve que c'était intéressant de voir un peu la situation des grisettes de l'époque. Et je me demande est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un choix entre le glamour et le militant. Est-ce que c'est voulu?
Est-ce que c'est libéré?
Oui, c'est assez joli, ils m'ont dit. Je trouve qu'il n'y a pas de choix à faire entre le glamour et le militant, parce que ça résume très très bien ces jeunes femmes là. C'est très joli, ils m'ont dit, j'aime bien. Je l'avais jamais formulé comme ça, mais oui, tout à fait. En fait, ça raconte la prise de liberté. C'est des femmes qui se sont battues pour être libres. Et être libre, c'est quelque chose qui passe par du politique et par des combats sociaux. Mais c'est aussi être libre dans ses amours, dans ce qu'on a envie de vivre. Et c'est les premières femmes salariées indépendantes. Ça veut dire qu'elles gagnaient leur vie, leur argent, donc pour elles, c'était pas pour leur mari, donc elles n'étaient pas mariées, et elles ne vivaient pas chez leur famille non plus, et donc elles étaient libres d'aimer qui elles avaient envie d'aimer, et de danser, et de chanter, et de faire la fête, voilà, la liberté c'est ça aussi.
Et la grisette, c'est un personnage qui a parcouru toute la littérature du 19e.
Oui.
Je crois que la première grisette vraiment qui est un personnage important, c'est dans Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, c'est
oui.
La petite Rigolette.
Je crois que c'est plutôt Mimi Pinson.
Oui, Mimi Pinson, c'est vrai aussi.
Ouais. Mais après, oui, bien sûr, Rigolette et Fleur de Marie dans Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, c'est les deux grisettes, les deux profils de grisettes qui s'affrontent.
Puis après, il y aura Fantine aussi. Fantine
dans Les Misérables. Bien sûr. Nana aussi, un petit peu chez Zola.
Aussi.
Et puis, Au Bonheur des Dames, c'est aussi ça. Ça parle de. Voilà. Oui.
Donc, c'est parmi les premières femmes travailleuses, indépendantes, et donc qui ont peuplé l'imaginaire de la littérature.
Oui.
Il y a d'ailleurs des extraits de textes, si je ne me trompe pas, dans le spectacle.
Oui, tout à fait.
Mais vous n'avez pas choisi ni Eugène Sue, ni Musset. Vous avez choisi plutôt Paul de Kock. Paul de Kock, Béranger aussi.
Oui, Béranger pour les chansons. En fait, c'est surtout que on a lu évidemment Mimi Pinson, Les Mystères de Paris, etc. Mais c'était des extraits littéraires qui, sortis du roman, étaient difficilement exploitables. Par contre, ce qui est très intéressant dans la littérature du 19e, c'est les physiologistes. C'est qu'à l'époque, on adore classer les gens dans des catégories et décrire.
Il y a les physiognomistes aussi.
Oui, voilà. Mais c'est
cher à Balzac.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est dans cette veine-là. Et donc, en fait, il y a trois physiologistes surtout qui à qui on a emprunté les mots pour le spectacle, qui sont Ernest Després, Jules Janin,
Jules Janin, et
Louis Huard.
Jules Janin, c'était un ennemi personnel de Victor Hugo.
Ah oui.
Oui, oui, puisque...
savais pas ça.
Et Paul de Kock était l'écrivain le plus lu au 19e siècle.
Ah oui. Voilà.
Et complètement oublié, comme la plupart de ces auteurs-là.
Oui, complètement. Ah,
parce
oui,
que Jules Janin, qui se souvient encore qu'il a écrit L'âne mort, qu'il a écrit pas mal de choses.
Ah, mais Jules Janin était un bon écrivain, au contraire de Paul de Kock.
Oui, Paul de Kock, c'était vraiment de la littérature savonnette, on va dire. Mais c'est vrai que Jules Janin, c'était le critique influent, réactionnaire, complètement opposé à toutes les thèses, plus libérale que défendait Victor Hugo. Pourquoi avoir choisi ces auteurs-là particulièrement ?
Alors, parce que justement, dans ces trois physiologistes, il y a Ernest Després d'un côté et Jules Janin et Louis Huard de l'autre. Ernest Després, justement, a quelque chose de très... il est très conservateur. On sent vraiment que c'est un homme qui écrit sur ses femmes, etc. Alors que Jules Janin et Louis Huard amenaient quelque chose de beaucoup plus... féministe, on va dire, puisque des hommes peuvent être féministes.
Avec une certaine condescendance, quand même.
Oui, bien sûr, et de l'humour, beaucoup d'humour aussi, parce qu'on a beaucoup d'humour pour parler de la phtisie, de la tuberculose, de la mélancolie et du suicide à l'époque. Voilà. Mais non, ça nous a apporté un éclairage un peu complémentaire, on va dire. Voilà.
Puis c'est vrai qu'il y a eu aussi un opéra qui exploitait le thème de la grisette, c'est la
bohème.
La bohème,
oui, tout à fait. Hein,
avec la célèbre Mimi, les célèbres airs de Mimi.
Oui, exactement. Mais en fait, c'est ça, c'est que Mimi Pinson de Musset a été beaucoup plus connue et reconnue dans l'opéra de la vie de bohème, avec la chanson, que la nouvelle en elle-même, oui.
Tito, t'as pas encore
entendu. Alors il y a un rapport par contre direct avec le théâtre qui est exploité, puisque les grisettes étaient souvent le terreau pour faire des actrices de théâtre.
Ouais.
Et donc, d'ailleurs, c'était un peu... c'était ça ou tomber dans la prostitution, très souvent.
C'est vrai qu'il y a les deux aspects.
C'est tout à fait ça.
Il fallait bien, à bout d'un moment, trouver un métier qui rapporte pour ne pas finir à l'asile. Mais il y avait quand même un rêve de devenir actrice, puisque la plupart des grandes actrices de l'époque étaient d'anciennes grisettes et c'était connu, et elles le savaient. Donc c'était un peu comme les jeunes filles qui rêvent d'être sur les passerelles maintenant, de dire « je suis nulle à l'école, etc. » Mais au moins, je peux défiler.
C'est exactement ça. Ouais. Mais encore une fois, là aussi, justement, les actrices, les comédiennes de l'époque pouvaient tomber dans la prostitution très facilement parce que, elles étaient souvent à la merci des bourgeois qui venaient les admirer, les entretenir et qui leur offraient une condition sociale meilleure. Du coup, la limite est fragile, est très mince entre
la grisette.
Fragile,
d'autant plus que les femmes à l'époque, si elles devenaient filles-mères, elles perdaient leur emploi.
Tout à fait.
C'est tout le drame de
Fantine. Et leur statut, même un statut social, en fait, elles perdent carrément. Parce que la grisette ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'est plus grisette dès qu'elle a un enfant.
Elle devient
dans la pièce. Dans la pièce.
On va peut-être écouter, vous nous avez apporté un petit extrait musical qui est dans la pièce. Donc on va écouter tout de suite. Gilles, s'il te plaît.
On a beau chercher, on a beau sonder la laque de la grisette. Nulle profondeur, tout n'est que fausseté derrière son rire étudié. Habillage pour cacher la vanité de nos vies, la misère de nos petits compromis. Tu hésitais, tu le disais. J'apprenais la patience à 2 minutes de l'enfance. Mais depuis je prends la tangente et je descends la pente. Oui, depuis je prends la tangente et je descends la pente. Je n'en peux plus de ta dégaine, ton sourire à l'américaine. Car toi, tu m'en as fait trop voir. Des allusions glissées en douce, des rendez-vous donnés à tous. Ne me fais plus rien croire, j'ai attendu, je n'attends plus. Je prends la tangente à l'envers, je suis dans le nowhere. Je prends la tangente à l'envers, je suis dans le nowhere. La vie cette compile de copules, nos deux forces qui s'annulent. Ne cherche pas non, tu es trop solide pour ça. Alors caché sous un faux nom d'artiste, je fais du hors-piste. Ne m'aime pas, il est trop tard pour ça. Et depuis je prends la tangente, et la chute est lente. Je prends la tangente, ma chute est lente. On m'a bien trop parlé des femmes. Je vais changer de cam. Si je tombe, n'en fais pas un drame. Mais ne viens pas faire semblant de pleurer sur mon sort. Après la mort, le réconfort. Après la mort, le réconfort. Après la mort, le réconfort.
Vendredi Théâtre sur Divergence FM, on vient donc d'écouter un extrait musical de la pièce qui passe au Domaine d'eau Habillage. Je suis toujours avec Anna Delbos-Zamor pour nous parler de ce spectacle.
Oui, et c'était Frédéric Roudier qu'on vient d'entendre chanter.
C'est la question que j'allais vous poser.
Super. Sur une musique composée par Tony Bruno.
On n'a pas parlé de...
Et un texte écrit par Sarah Fourage.
Voilà, vous anticipez mes questions. Voilà, j'allais parler de Sarah Fourage qui a écrit le texte qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure pour le dernier plateau.
Ouais.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette auteure ?
Ah, Sarah, merveilleuse Sarah. Sarah est auteure de théâtre, elle a écrit beaucoup de pièces pour le théâtre et surtout beaucoup de commandes d'écriture. Sarah, elle a une écriture de plateau. Et elle est aussi comédienne et donc elle est superbe pour ça. C'est qu'elle, voilà, c'est vraiment une femme de théâtre qui écrit du théâtre. Et donc on lui a fait une commande d'écriture parce que moi j'aime beaucoup travailler sur l'écriture contemporaine. J'aime porter les mots d'aujourd'hui sur la scène, même si je peux avoir un attachement au 19e siècle aussi et à la littérature. Mais voilà, j'aime parler d'aujourd'hui avec nos mots d'aujourd'hui, nos préoccupations. Et quand on a voulu faire un spectacle éponyme, puisque c'est le nom de la compagnie, sur les grisettes, et qu'on avait déjà toute cette matière fabuleuse dont on a parlé tout à l'heure, je me sentais pas de faire un montage de texte du 19e, j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'un texte contemporain, et du coup, il y a eu l'envie de faire une commande d'écriture, et on m'a parlé de Sarah Fourage, Laurent Dupuy qui vient tout à l'heure justement m'en a parlé en me disant « lis ces textes, rencontre-là », je l'ai rencontré, j'ai lu ces textes, je lui ai parlé du projet, et ça a été une rencontre super, parce que non seulement moi j'ai été conquise de ce que j'ai lu et de la personne que j'ai rencontrée, et elle a été très attirée par le propos aussi parce qu'elle est très intéressée par le monde du travail, très intéressée voire très préoccupée. Voilà, c'est quelque chose qui la tient en haleine et sur quoi elle a envie d'écrire. Et donc quand je lui parlais d'un texte à écrire sur la condition des femmes et du travail, ça lui a parlé, elle a dit oui, voilà.
Et ça donne donc Habillage. On parlait des grisettes donc au 19e siècle, mais on parle de la condition féminine.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait des grisettes encore aujourd'hui ? Qu'est-ce que seraient devenues ces grisettes ?
Alors ça, c'est la grande question. C'est la question qu'on se pose un petit peu pendant tout le spectacle. Et en fait, évidemment, la grisette aujourd'hui n'existe plus, puisque la grisette, en plus de ça, elle appartient vraiment à l'époque avant l'ère industrielle. Mais on peut la transposer aujourd'hui, bien sûr. On parle d'une licenciée de chez Le Jabi, par exemple, des ouvrières des Philippines, des enfants qui travaillent pour nous vêtir dans les grands magasins de ce monde de consommation d'aujourd'hui. Et puis après, on parle aussi, bien sûr, de la place de la femme au travail aujourd'hui, en fait, et plus largement des inégalités en termes de salaire, en termes de postes, de direction et toutes ces choses-là.
Christopher, j'ai un peu l'impression que je t'ai coupé l'herbe sous le pied sur la question que tu voulais poser.
Je me posais juste la question, quand on voit la pièce, on voit qu'on assiste à une pièce qui est une pièce qui essaie de mettre en place une pièce. Je me demandais pourquoi le choix de la mise en abîme.
Oui, le théâtre dans le théâtre. Ça a été le moyen qu'on a trouvé pour pour être aujourd'hui et maintenant, justement, pour partir vraiment de l'actualité, de ce qu'on était nous, et puis pour partir de ce qu'on est sensiblement aussi. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le sensible avec les acteurs, dans la direction d'acteurs. Et du coup, ça a été un moyen aussi pour le texte de lancer en fait tout ce qui nous préoccupait, tout ce qui nous touchait. Et c'est toujours pareil, c'est la petite histoire qui fait la grande histoire, quoi. Voilà. On a une petite histoire devant nous, qui est l'histoire des acteurs, qui peut partir de quelque chose d'un peu nombriliste, mais en fait, l'essentiel, c'est qu'on s'y retrouve tous là-dedans, dans ce qu'eux traversent, dans ce qu'eux vivent. Ils ont tous on parle de l'humain, en fait, et de leur rapport entre eux, leurs histoires d'amour à eux, entre eux, pour parler de la grande histoire avec un grand H. Voilà.
Tito, tu as quelque chose rapidement à rajouter ?
Non, il y a juste une question. J'ai deux choses, mais...
Très vite, parce qu'il nous reste 2 minutes.
Alors, juste une question. C'était bien... C'était une... Vous étiez à la Chartreuse pour faire le... voilà,
c'est oui, il y a un an, on est parti faire une résidence d'écriture collective. C'était fabuleux, justement avec Sarah, pour que Sarah écrive le texte en fonction du plateau. Et donc, on y était avec les acteurs. Et donc, moi, je dirigeais les impros avec les acteurs. Et Sarah écrivait pendant qu'on répétait... Toute la nuit, le matin, on se voyait, voilà.
Voilà, un lieu en Languedoc-Roussillon dont on parle très peu et qui est précieux, justement.
Le Centre National des Écritures du Spectacle, oui.
Voilà. Et juste pour conclure, puisqu'on parlait de la grisette, il faut penser une chose très simple. La première fortune européenne, c'est dans le textile.
Oui.
Ce n'est pas ni dans le pétrole, c'est Zara. Oui. Et les vêtements de Zara sont faits par des femmes.
Des petites mains.
Voilà. Ouais, et donc les grisettes existent bel et bien quelque part.
Oui,
et aussi en Europe.
Ailleurs dans le monde et aussi en Europe.
On va rappeler que le spectacle s'appelle Habillage. C'est au Domaine d'eau. C'est encore ce soir et demain.
Et demain soir.
Et c'est à 20h30 si je ne dis pas de bêtises.
Et la semaine prochaine au Chez du Terral et à l'Albared.
Ah, ça j'ignorais. Voilà. Mais vous m'apprenez quelque chose.
Ben voilà.
Merci Anna de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. Et
merci.
Puis donc, allez au Domaine d'eau.
Oui,
merci.
J'y cours.
On va se séparer avec les frères Jacques, l'entrecôte.
Dans l'atelier qui bourdonne comme une ruche, la pauvre Lisette sanglote en travaillant. Car son grand-père est mort de la coqueluche, elle reste seule pour nourrir 5 enfants. 10 petits pieds réclament des chaussures, la neige tombe, il doit sûrement faire froid. Tout en cousant pour les riches créatures, la petite main sans frissonner ses doigts. Et dans son estomac que torture la faim, elle sent que grandit la peur du lendemain. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes. Qu'elle travaille pour les gens de la haute et qu'elle fait des robes pour le beau monde. Et le soir consciencieusement, si elle fait du supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte. 1, 2, l'entrecôte. Mais un beau jour comme elle était jolie, un beau jeune homme à placier Rantissus lui acheta dans un coup de folie une belle robe avec des fleurs de suce. Elle voulait pourtant rester honnête, mais il lui dit qu'il avait de l'argent. C'est pour cela que la pauvre Lisette se sacrifia en songeant aux enfants. Tous les soirs, désormais, par les soins du placier, les petits estomacs furent rassasiés. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes, qu'elle a commis son initiale faute, qui la rabaisse au rendu de mi-monde. Et le soir, consciencieusement, si elle offrait du supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte. L'entrecôte. Comme son amant était d'humeur changeante, il la plaqua pour aller au Brésil. Alors du vice, elle descendit la pente, et de son corps, elle fit un outil. Mais dans son cœur, elle songeait à ses frères, qu'elle sauvait d'un geste machinal, pour éviter qu'ils soient dans la misère. Cette effrayance qu'elle se donnait du mal. N'imitez pas, fillette, cet exemple maudit.
vous seriez pour le monde un objet de mépris.
Ouais.
C'est pour pouvoir acheter notre gourde qui nourrira les chères bêtes blondes, qu'elle reçoit sans cesse de nouveaux hôtes et qu'elle devint la femme à tout le monde. Et dans la nuit, pieusement, si elle fait du supplément, c'est pour pouvoir acheter notre gourde, notre gourde.
À qui attribuez-vous ces qualités ou défauts aux hommes ou aux femmes? Être scientifique.
Un homme.
Être littéraire.
À la femme.
Vous ne pensez pas qu'une femme puisse être pompier?
Non,
non.
Si.
Non.
Je pense que oui.
On s'aperçoit qu'à l'école, quotidiennement, par une foule de petits mécanismes, des différences, garçons-filles, sont fabriquées.
Et est-ce que tu penses qu'une femme, elle peut réparer une voiture?
Un tout petit peu.
Un garçon qui joue à la poupée, bon, ça reste encore problématique.
Faut aider les gens à transgresser. Vraiment montrer que oui, ils peuvent faire ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème.
Divergence FM.
Qu'un garçon qui fait ça, il va pas se transformer en fille et qu'une fille qui fait ça, elle se transforme pas en garçon.
93.9.
Et oui, les jingles maison de Divergence. Je vous rappelle que vous êtes sur Vendredi Théâtre. Vendredi Théâtre est l'émission qui parle de théâtre, qui assiste au spectacle et qui essaye d'explorer toute l'actualité théâtrale toutes les semaines. Grazia nous a rejoint. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Et nous allons parler d'un spectacle qui se déroule au Théâtre des 13 Vents. Il s'agit de Solness, le constructeur de Henrik Ibsen. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Agathe L'Huillier. Bonjour.
Bonjour.
Et Vladimir Yordanov. Danoff, bonjour.
Bonjour, non?
ça va faire plaisir à Grazia.
Bonjour. Va bene.
Bene, grazie.
Alors, tout le monde a vu le spectacle dans le plateau. Solness le constructeur, c'est une pièce d'Henrik Ibsen. Pour ceux qui ne connaissent pas Henrik Ibsen, c'est un écrivain norvégien qui vivait au 19e siècle, qui est né en 1828 et mort en 1906, si je ne m'abuse. Et Solness le constructeur, c'est plutôt une pièce sur la fin de la carrière d'écrivain de Ibsen. C'est une pièce qu'il a écrite en 1892. Alors, le thème un petit peu de cette pièce de Ibsen. Ce qu'il arrive, quand il écrit cette pièce, il revient de 20 ans d'exil et il rejoint son pays où il est consacré vraiment comme un grand auteur dramatique. Et en même temps, il y a une nouvelle génération qui arrive d'écrivains et qui le conteste un petit peu. Et on retrouve un petit peu ce thème dans la pièce, c'est-à-dire la personne consacrée et qui a un petit peu peur de la nouvelle génération qui arrive.
Mais l'homme mûr est confirmé, adulé, qui a peur d'être déposé par la jeunesse. On sait qu'Ibsen allait assister assez souvent à des conférences de jeunes auteurs dont il savait qu'il serait la cible, en particulier Knut Hamsun. Il s'est mis au premier rang et il s'est fait bien critiqué, direct, les yeux dans les yeux. Il est resté consciencieusement assis, il est sorti, il a dit... Et puis voilà, il avait... Dans son bureau de travail, Ibsen avait le portrait de son ennemi préféré, Strindberg. Alors on ne sait pas s'il écrivait en disant « je ne t'en veux pas » ou s'il écrivait en disant « tiens, regarde ce que je suis capable de faire encore ». Ça, c'est une autre histoire. C'est un malicieux, Ibsen, je pense. C'est un malicieux profond.
Knut Hamsun, on va rappeler que c'est l'auteur de La Fin, oui. Si je ne me trompe. Alors je disais donc, tout le monde a vu le spectacle. Qui veut commencer à intervenir? Tito, tu es le plus près du micro.
J'arrive.
Alors, moi, j'ai vu aussi, il y a le rapport entre les hommes et les femmes, et aussi la question du vieillissement aussi dans le rapport à l'autre, hein, et dans le rapport amoureux. Voilà, je ne sais pas très bien comment poser la question, mais... Le personnage, cette jeune fille qui apparaît, ne représente pas forcément uniquement cette dichotomie entre son succès. C'est plus compliqué que ça. Mais en même temps, elle est là pour lui rappeler qu'il est encore capable de faire quelque chose.
Oui, c'est-à-dire que Ibsen s'arrange pour créer un certain nombre de fausses pistes dans cette pièce. de manière à ce que la maladie dont on dit que Solness souffre pour un architecte constructeur, qui est une maladie contradictoire, c'est-à-dire qu'il souffre de vertige, de manière à ce que ce soit le spectateur qui ait le vertige. C'est comme ça qu'elle est construite, la pièce. C'est-à-dire qu'un certain nombre de fausses pistes s'accumulent les unes aux autres, y compris celle dont on croit qu'elle est centrale, c'est-à-dire qu'elle vient pour réclamer quelque chose qui lui aurait été promis quand elle avait 13 ans, qu'il l'aurait embrassé, renversé et embrassé de nombreuses fois. Donc on se dit, mon Dieu, dans quoi on rentre, dans quel... Et puis en fait, c'est remis en doute au fur et à mesure de la pièce. Ça, est-ce que vous pensez vraiment que c'est arrivé? Est-ce que c'est pas vous qui avez une illusion qui s'est enracinée en vous, un rêve? Et donc la succession de ces fausses pistes crée quelque chose qui est de l'ordre plutôt de qu'est-ce que la mémoire peut, en quoi la mémoire est fidèle et qu'est-ce que la mémoire peut nous permettre, sur quoi on peut créer des fondations. Si la mémoire est juste, on a des fondations solides. Si la mémoire est fausse, si elle est, si elle nous joue des tours, si on a décidé qu'on souffrait pour quelque chose mais qu'on laisse celui qui est à côté de nous croire qu'on souffre d'autre chose, ça crée des troubles de mémoire, ça crée des troubles de... Il n'y a pas de fondation, quoi. L'histoire des poupées, par exemple, c'est aussi une histoire de mémoire. Il croit que sa femme souffre de la perte des enfants dans un incendie. On apprend très tard que ce dont elle souffre, c'est que ses poupées ont été brûlées. C'est un... C'est même plus un malentendu. C'est une vie brisée pour des riens. Simplement pour le silence et la mémoire. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais si. Je suis parti dans...
C'est vrai que c'est une pièce extrêmement riche, il y a plein de thèmes et des fausses pistes, comme vous le disiez. C'est une pièce en 3 actes. Moi, j'ai l'impression que le chiffre 3, il revient tout le temps aussi. Donc, il y a 3 actes, il y a 3 maisons, il y a 3 chambres pour les enfants. Les poupées sont 3 fois 3. 3 fois 3.
3 femmes.
Il construit 3 types d'habitations. C'est-à-dire des églises, des
foyers pour les humains.
Des foyers pour les humains et peut-être des châteaux...
Dans les airs.
Dans les airs.
Ça, voilà.
Est-ce que je me trompe si je dis que ce chiffre 3, il est un peu central?
Oui, non, vous ne vous trompez pas, mais en même temps, il ne faut pas penser que Ibsen fasse des choses, de l'ordre kabbalistique, ou je ne sais pas comment dire. C'est pas une symbolique particulière, c'est en même temps... quelque chose qui permet de se dire que Ibsen était lui-même un constructeur très minutieux. Ses pièces sont construites avec une précision diabolique. Beaucoup de metteurs en scène norvégiens qui les montrent souvent, moi j'ai lu pas mal de textes traduits, disent que quand on se laisse aller, ou quand un metteur en scène laisse les acteurs, quelle que soit leur capacité d'acteur, prendre en charge la mise en scène, très vite on arrive à un état d'anarchie totale parce que chacun veut jouer quelque chose et ça ne colle pas. Il faut revenir au projet initial de l'écriture qui est une minutie mathématique. Nous, on s'est accroché à ça, c'est-à-dire la ponctuation, les tirets. Il y a une chose très particulière dans l'écriture d'Ibsen, c'est qu'il ne met jamais de point de suspension, il met des tirets. Et ces tirets, c'est le contraire des points de suspension chez Tchekhov, son contemporain. Parce que l'écriture de Tchekhov fonctionne sur des possibilités de vouloir dire quelque chose, puis on ne le dit pas, on est à la périphérie des choses. Et le tiret, lui, c'est une chose abrupte. C'est-à-dire on dit quelque chose et en plein milieu, on dit autre chose pour arriver à l'essentiel.
Je vais me tourner vers Agathe. Donc, vous êtes l'une des 3 femmes de la pièce.
Oui.
Quel rôle jouez-vous exactement?
Alors, je joue le rôle d'une jeune femme qui s'appelle Kaya Fostli, qui est au service de Solness, le constructeur. C'est elle qui tient les registres. Elle a un lien fort avec les autres membres du cabinet. Elle est la cousine et la fiancée de Ragnar, un jeune homme qui voudrait, on le comprend au fur et à mesure de la pièce, travailler à son compte.
Qui représente la jeune génération, en fait.
Oui, exactement. Et elle est la nièce de Brovik, qui est le vieux qui a tout appris à Solness. Je peux dire tout appris, oui. Enfin bon, lui a mis le pied à l'étrier. Et voilà, donc on travaille tous dans son cabinet.
Et donc le vieil architecte est joué par Michel Robin. Je tiens à le signaler. Extraordinaire, ouais. Michel Robin.
Oui, tout à fait, on peut dire ça.
Et en fait, Solness, il a fait vis-à-vis de lui ce qu'il a peur que le nouvel architecte fasse.
Bah, c'est pour ça qu'il en a peur, parce qu'il sait qu'il a usurpé. Donc on le sait bien, y compris en politique, les usurpateurs n'ont qu'une peur, c'est d'être usurpés eux-mêmes. On le voit, hein, je veux dire, quand il y a une illégitimité, il y a une peur.
Oui.
Qui veut intervenir maintenant?
C'est juste un petit
truc. Oui, vas-y Tito.
Parce que ces histoires de Troyes, juste revenir là très rapidement. C'est vrai qu'il y a une lourde tendance pour aller chercher des trucs cabalistiques et des symboliques et des trucs comme ça. Moi, je suis plutôt d'opinion que toutes ces choses-là sont très conscientes, mais aussi ça fonctionne parce que ça fonctionne bien inconsciemment. C'est-à-dire que si on construit ça en Troyes, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à ce moment-là. Par exemple, une voie du milieu, une troisième voie, etc. Et ça, c'est présent dans la pièce. C'est-à-dire, les choses sont ni noires, ne sont pas que noires et blancs. Il y a un avenir, il y a une autre chose qu'on pourrait faire. Il y avait aussi, visiblement, quelque chose en parallèle qui se passait à sa vie, à lui. Hein? La vie de cette fille qui arrive 10 ans après, pendant ces 10 ans après, des ans, il y avait quelque chose qui s'est passé en troisième plan. Mm-hmm. Hein? Voilà, c'est juste pour faire...
voilà. Gradia, Christopher ? Allez, Gradia.
Voilà, donc moi, cette pièce m'a fait réfléchir sur le concept de risque. Solness prend quand même, aime le risque. Il prend le risque de monter donc sur la tour tout en sachant qu'il ne peut pas, qu'il risque gros. Et d'un autre côté, la jeune fille, celle qui le pousse à monter sur...
Hilde,
elle aime le risque, elle adore le risque. Et donc, est-ce que le risque, ce n'est pas un élément propre à la jeunesse? Est-ce que quand on est vieux, quand on arrive à un certain moment de la vie et qu'on imagine qu'on peut aller vraiment construire des châteaux dans l'air? En italien, on dit castellinaria, comme ici, on dirait, nous, comme en France, on dirait château en Espagne.
Mais on a choisi la traduction château dans les airs. Je ne savais pas que ça existait en italien.
Castellinaria.
En Espagne, ça raconte, c'est un petit peu autre
chose
aussi.
C'est pas la même chose. Ouais, il y a une
connotation, l'oncle du Pérou, enfin je sais pas quoi, il y a quelque chose de...
Parce que Castellinaria, c'est aller prendre vraiment un grand risque pour construire quelque chose qui probablement n'aboutira pas. Ouais. Donc ça m'a fait réfléchir sur le risque. Est-ce que quand on est jeune, on prend le risque? La liberté, c'est aussi le risque d'affronter les choses. Et quand on a un certain âge et qu'on laisse un chemin qu'on connaît bien, on paye peut-être un prix au risque qui est beaucoup plus...
Bah oui, mais c'est-à-dire que Solness, lui, en plus, il a construit tout ce qu'il a construit à l'époque où il était jeune. Il l'a construit sur... des usurpations, c'est-à-dire sans fond, il n'y a pas de fondation. Ce qu'il a créé n'a pas de fondation. Son couple est détruit de l'intérieur. Ses architectures sont détruites de l'intérieur parce qu'il pense qu'il ne veut plus construire d'église parce que Dieu lui a pris ses enfants. Il ne veut plus construire de foyer pour les humains parce que les humains n'en veulent pas. Enfin, bon, on pourrait faire une longue liste. Il aboutit à la fin à dire oui à une proposition totalement étrange que lui fait une jeune fille qui lui dit: nous allons construire ensemble des châteaux dans les airs. Et il répond oui, avec des fondations. Ce qui est absolument incroyable. Mais on sent aussi que la construction machiavélique de Ibsen fait que dans le public, je ne perçois pas de gens qui pourraient dire on ne comprend pas ce que ça veut dire. Or, qu'est-ce que c'est des châteaux dans les airs avec des fondations? C'est inexplicable. Ça n'a pas de sens.
C'est impossible.
Oui, c'est l'impossible, c'est du monde onirique, c'est du monde de l'ordre, comment dire, ce n'est, parce qu'on pourrait dire par exemple que ce serait une construction érotique, mais ce n'est pas un éros qui existe entre un homme mûr et une jeune femme, ce n'est pas ça, c'est un château dans les airs avec des fondations.
Avec une jeune femme qui lui propose quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il aurait pu répondre aussi aux avances de vous, mademoiselle,
oui, donc, Kaya,
de Kaya, oui, et il ne le fait pas, au contraire, ça l'agace. Donc il a, Solness a envie lui aussi de s'élever.
Oui, alors là, nous avons beaucoup travaillé avec Alain Françon sur un texte d'un... Oh, ça va être très difficile de dire tout ça, mais un texte d'un psychiatre, neuropsychiatre, philosophe, phénoménologue qui s'appelle Binswanger, qui a fait une thèse entière sur Solness, Ibsen et le problème de l'autoréalisation dans l'art. Et cette... dénomination d'autoréalisation dans l'art ou dans quoi que ce soit, ça peut être autoréalisation dans la Formule 1, on voit les gens qui ont réussi à franchir s'auto-réaliser dans quelque chose. On voit très bien ce que ça veut dire. Chacun le sait, ça peut être sur une chose simple ou une chose compliquée. Et Solness est quelqu'un qui ne peut pas s'auto-réaliser parce que tout est faux. Il est tiré dans un abîme sans fond par sa femme. Dès qu'il veut monter, il a le vertige et il ne sait pas se tenir debout sur terre. Donc, dans le fond, dans la hauteur et sur terre, tout est faux. Et c'est une force de jeunesse qui vient lui réclamer un fantasme adolescent, en plus, qui vient lui dire « Vous m'avez dit à 13 ans que dans 10 ans, je serai votre princesse, je veux mon château. » Et au début, ça lui fait un peu rire, et puis petit à petit, il se dit que la seule solution pour lui, face à tous les mensonges qu'il a créés, c'est de rentrer dans ce monde, comment l'appeler, onirico, symbolico, je ne sais pas quoi. Et il dit oui, au risque de tomber, mais il tombe. Voilà.
Christopher, tu n'es pas encore intervenu.
Je voulais revenir sur l'aspect des fausses pistes distillées par Ibsen. C'est vrai qu'on pourrait voir la pièce comme un personnage qui a une crise de la cinquantaine avec une idylle avec Hilde. On ressent quand même cette tension sexuelle. Mais on voit finalement derrière que Hilde, j'ai l'impression, vient lui ouvrir les yeux sur son présent, sur sa ce qu'il vit au jour le jour. Il ouvre les yeux et il se rend compte peut-être qu'il vit finalement dans un confort de compromis, dans un confort de demi-mesure. Et il y a toujours cet aspect un peu fantasmagorique de Hilde qui lui rappelle qu'il avait été autrefois un bâtisseur de cathédrale. Et je voulais revenir sur le fait qu'il y a toujours ce doute, est-ce que c'est vrai ? Parce que lui-même ne s'en rappelle pas, on voit au début. Et derrière donc un texte qui peut sembler d'une histoire à peu près... normal, on voit que Ibsen va questionner plus profondément quand même à travers des choses assez banales finalement, des questions plus importantes comme le thème du sacrifice, la quête de la vérité, du but. Enfin voilà, j'ai pas de questions particulières là-dessus, mais je voulais revenir sur cet aspect-là.
Mais il y a une chose absolument extraordinaire qui se passe, enfin de toute manière, 1892, c'est une époque où dans toute l'Europe, enfin dans l'Europe, donc pratiquement le creuset intellectuel du monde à cette époque-là, les grandes capitales, Berlin, Moscou, Paris, enfin, etc., Vienne surtout, il y a une sorte d'air du temps qui circule et qui va aboutir 4 ans après l'écriture de cette pièce au premier livre de Freud sur les 5 théories de l'hystérie avec Breuer, puis une année après, une nouvelle théorie un petit peu plus affinée de lui tout seul. Or, il se trouve que 4 ans avant, Ibsen, donc, écrit cette pièce, qui est une pièce, comme vous le dites, sur la fonction de vous avez dit, ouvrir les yeux, c'est-à-dire, en analyse, on appelle ça l'anamnèse, c'est-à-dire, tout ce qui a été oublié, on va le faire revenir, le faire ressurgir par la parole, et c'est ce qui se passe, tout le deuxième acte, c'est, je vais tout vous dire, et il commence, il raconte, et il redécouvre tout son passé, tout ça pour aboutir à une phrase absolument magique, alors que le mot n'existe pas encore. Il va être créé par Freud en 96, c'est le mot de refoulement. Je ne peux pas le citer en allemand parce que je ne le sais pas. Mais mon personnage dit, est-ce que ce n'est pas étrange ? Plus j'y pense maintenant, plus il m'apparaît que pendant toutes ces longues années, je n'ai cessé d'être hanté par quelque chose qui revenait sans cesse, une chose, disons, vécue que je pensais qu'il fallait que j'oublie, mais sur laquelle je n'ai jamais eu prise. C'est une définition poétique du refoulement. C'est-à-dire, je ne le sais plus, mais il est là, il passe son temps à dire « parle de moi », et dès qu'on ouvre la porte, il y a une libération, des symptômes disparaissent, etc. Mmh. C'est magique de savoir que cet homme, Ibsen, lui-même peu diplômé, il n'a même pas eu le bac, enfin l'équivalent norvégien, s'est construit seul, lisait à son chevet des livres relativement... il n'allait pas chercher beaucoup, enfin il lisait Kierkegaard, la Bible et les journaux. C'était un peu très simple. Non mais c'est pas mal aussi de savoir ça. Les journaux, c'est-à-dire qu'il allait chercher des... comment dire, dans les analyses et dans les faits divers, quelque chose d'humain, de fondamentalement trivial, qui se retrouve dans son écriture. Il est à la fois, il peut sortir des phrases aussi brillantes que celle-là, et juste après, une chose très triviale, où un mari dit à sa femme, qui lui reproche de regarder un peu trop de près une autre jeune femme, elle te plaît, oui, surtout quand on n'y est pas habitué. Alors, il lui balance un truc,
ah ouais,
qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est trivial, totalement trivial.
On va rappeler que la pièce s'appelle Solness le constructeur. Pourquoi il s'appelle jamais architecte? Il se désigne jamais sous le nom d'architecte d'ailleurs.
Bah, Agathe.
Parce qu'il dit qu'il n'a pas les diplômes.
Voilà. C'est l'histoire d'Ibsen hein, en fait.
Absolument. Un petit peu, c'est pour un ça petit que j'y pensais. Donc Solness le constructeur, c'est au 13 Vents. Ce soir, c'est à 20h30 et samedi, c'est à 19h.
Oui. Exact.
Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau de Vendredi Théâtre. Et on va se quitter avec Edouard Grieg, qui avait fait la musique de scène de Peer Gynt, qui est une autre pièce de Ibsen. Et c'est une version dirigée par Vaclav Neumann avec Adèle Stolt en soprano. Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Ce que nous venons d'entendre, c'est du Edvard Grieg, qui était lui aussi norvégien, avec la musique de scène de Peer Gynt, une pièce de Ibsen. Et on parlait d'un plateau qui se déroulait aux 13 vents. Et on retrouve les 13 vents pour le dernier plateau de Vendredi Théâtre, avec une pièce qui se déroule dans la petite salle qui s'appelle Perdu pas loin. Et j'ai donc le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Nicolas Auton, bonjour.
Bonjour.
Et Laurent Dupuis.
Bonjour.
Alors, avec Perdu pas loin, on retrouve Sarah Fourage, dont on a parlé dans le premier plateau. Tito et Christopher, vous avez vu la pièce. Moi, je ne l'ai pas encore vue, donc c'est à vous. Qui veut commencer? Tito.
Moi, alors. Aujourd'hui, je commence tous les plateaux. Alors...
Vas-y.
Bon, bref. D'abord, c'est joué dans la petite salle, mais il faut bien expliquer que ça ne pourrait pas être dans la grande salle, parce que, à mon avis, ça ne se prête pas du tout à être joué dans une grande salle. Première observation, j'ai trouvé l'écriture extrêmement concise et très précise et qui va droit au but, et ça, c'est très appréciable. Je sais qu'il y avait une contrainte de temps, c'est vraiment réussi, et ça, c'est vachement bien. Après, c'est très complexe. Elle arrive à donner de la complexité à quelque chose qui pourrait être juste un petit fil et puis hop, avec une chute. Moi, personnellement, je n'ai pas vu venir la chose, d'abord. Et voilà, mes appréciations de début.
Peut-être parler un petit peu de...
Donc, peut-être situer la pièce, comment voilà, est-ce qu'elle a été faite, voilà la question.
Qui veut y aller?
Je vous en prie, Laurent.
Non, mais à la base, donc, la pièce, c'était une commande d'écriture qui a été faite à Sarah dans le cadre de Collège en tournée. Donc, c'est le département de l'Hérault qui avait comme envie, comme souhait, de faire venir le théâtre dans les salles de classe. Donc voilà, on a demandé à Sarah d'écrire une pièce avec la contrainte de 3 comédiens, la contrainte aussi de monter... Le décor en 40 minutes, et voilà, d'avoir un format qui dure 45 minutes à peu près. Donc, toutes ces contraintes-là, finalement, comme souvent, les contraintes font du bien, et ouais. Ça nous a amené à faire ce spectacle, voilà, qu'on a joué, qui a été en tout cas créé pour jouer dans les salles de classe. Nicolas.
Oui, alors, l'histoire, on devrait... Je voulais revenir sur l'histoire, c'est... Donc, on a Freddy... Alors il y a Schaff et Rémi qui sont deux collégiens inséparables qui sont face à Freddy, le grand frère de Schaff, qui s'est enfermé dans un mutisme depuis quelque temps déjà. C'est oui. Ce que je résume correctement.
Très très bien.
Je voulais juste revenir déjà là-dessus.
Donc voilà, c'est ça. C'est Freddy est sur. On comprend très rapidement que depuis plusieurs mois, il est sur un terrain de basket. Donc en extérieur, assis sous le panier, et il ne parle plus du tout depuis 5 ou 6 mois. Donc c'est un petit peu l'enquête que vont mener les deux jeunes, à savoir donc Schaff, qui est le petit frère de Freddy, et Rémi, qui est le meilleur ami de Schaff.
Donc voilà, on se demande pourquoi celui-ci est enfermé dans le mutisme. Le format 45 minutes, c'est ça?
Oui.
Je pense qu'il est imposé du fait du format scolaire. C'est à peu près le temps qu'une classe a pour faire cours. J'ai trouvé, encore une fois, je vais répéter, mais le texte est court, efficace. Il va droit au but. Il arrive à soulever à la fois émotion... et réflexion d'une manière très intelligente, parce que quand même j'estime que face à des collégiens ou à des lycéens, c'est quand même quelque chose de difficile peut-être à aller titiller ce rapport à l'exclusion. Pour après, j'imagine, susciter une discussion.
Oui, parce qu'en fait, on a un format de 2 heures, donc on fait une demi-heure 45 minutes, parce qu'avant, on avait une version un peu plus courte même de ce spectacle, et puis ça nous permet de faire un débat d'une heure, une heure et quart, une heure et demie avec les jeunes. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'il a abordé des thèmes dans la pièce qui permettent à discuter, mais nous, avant tout, c'est le plaisir du jeu, le plaisir de la rencontre qu'on met en avant.
Tito, tu voulais revenir?
Non, mais c'est surtout que elle réussit très très bien à nous amener à poser des questions intéressantes, c'est-à-dire pas sur la chute, sur le fait, à la limite, on pourrait même pas dire, on pourrait même s'abstenir de quelle est la chute, mais on peut
tout
le
à
dire
fait,
aussi.
Ouais.
Mais parce que ça peut être toutes sortes d'exclusions qui sont... moi, ça m'a fait passer, je l'ai dit hier, mais c'est pas... avant-hier, mais ce n'est pas... Non, je peux le répéter. J'ai un souvenir assez clair de ça. Moi, je n'étais pas du tout dans la... J'étais aussi, bon, évidemment... Je n'ai pas été exclu du tout. Hein. Je n'ai pas eu ce problème, heureusement, bien au contraire. Mais j'étais quelqu'un qui était très rétif à quelque chose qui est typique de l'adolescence, c'est cette volonté farouche d'être dans la norme. Et j'ai conscience que j'ai toujours réagi par la négative à ça. Je ne voulais absolument pas être dans la norme. Je ne voulais pas, je ne voulais pas, je ne voulais pas. Et je crois que ça m'a sauvé, justement, d'être exclu, parce que je n'étais jamais là où on m'attendait. Jamais j'étais avec les trucs qu'il fallait. Jamais j'allais voir les trucs qu'il fallait. Jamais j'écoutais de la musique qu'il fallait. Mais c'est ça, déjà, ça c'est intéressant, d'aller heurter ça chez les adolescents. C'est-à-dire, mais c'est quoi cette histoire de vouloir absolument être dans la règle, dans la norme ? Parce que ça fait partie de leur construction, de leur... Bon. Mais c'est bien, moi, je trouve que le frapper là-dessus, aller frapper et dire non, non, pourquoi ? Ça n'a rien de normal, justement, de vouloir être aussi normal, hyper normal. Et c'est une caractéristique de l'adolescence, c'est de vouloir être hyper normal.
Voilà. Ouais, ouais. Mais dans les salles de classe, on a des élèves qui parlent comme vous et qui disent ça, et justement le spectacle leur fait du bien d'une certaine façon puisque il est écouté par tous. Donc eux, ils peuvent prendre la parole en disant voilà, moi je suis à côté et je revendique ça. Donc il y a une discussion qui est assez intéressante là-dessus, quoi.
Oui, d'ailleurs en règle générale, comment le spectacle est reçu? Parce que j'imagine, là on l'a vu au théâtre, peut-être c'est plus facile peut-être dans la situation d'une classe d'ouvrir une discussion, ils ont l'habitude d'être ensemble, tout ça, comment réagissent les élèves?
C'est très bien perçu, c'est très bien reçu, c'est même entre guillemets mieux reçu que dans un tout public, je vais dire, parce que nous on a une façon d'être au plateau un peu différente, quoi, c'est-à-dire que là on est entouré de professionnels quoi qu'il arrive, puisqu'on est au 13 vents et c'est peut-être pas forcément, enfin moi je trouve que c'est pas forcément le lieu pour ce spectacle là mais non, avec les élèves on a comme ça un contact très direct, on voit tout de suite si ça écoute, ça écoute pas, comment les faire raccrocher les wagons, etc. Donc on a un jeu qui dépend beaucoup de eux, quoi, et ça c'est bien, c'est-à-dire le pouvoir est pas chez nous, il est en face, et des fois dans les grandes salles on a tendance à l'oublier.
C'est donc un spectacle qui va tourner dans les collèges. Vous avez déjà des indications où ça va tourner ?
Mais on a joué beaucoup dans les collèges. Il doit y avoir une série de bahuts là, mais on a dû faire 25 collèges, je ne sais pas combien.
Oui, on a fait presque peut-être une trentaine de dates en collège. On a fait une tournée donc autour de 7. Et puis là, on sort d'une tournée en Lozère aussi. Mm-hmm. Et voilà, à venir peut-être quelques dates aussi. Voilà, je n'ai pas plus de précisions encore. Mais...
Non, mais nous, on est...
On est très, très contents, en tout cas, de jouer ce spectacle-là.
Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on a 5 petits projos, parce qu'on ne peut pas dépasser les 3 kilos dans une salle normale. Donc, on a 5 petits projos, mais on arrive à avoir une ambiance lumineuse. Donc, on arrive avec le son, et il y a ce sol blanc. Et donc, quand même, on arrive à faire que les jeunes voient vraiment... du théâtre, c'est-à-dire qu'on aille au bout d'une proposition théâtrale, c'est-à-dire lumière, son, et puis jeu d'acteur. Voilà.
Quand on leur demande vraiment, quasiment tous à l'unanimité, ils oublient clairement la salle de classe.
Oui.
Donc ça, c'est quand même un pari, c'était le pari de départ et il est réussi.
Et vous ne cherchez pas à faire des faux jeunes aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très bien. Vous êtes vous-même.
Mm-hmm. Ah bah, c'est-à-dire,
ça marche. Parce
avec
que après...
la calvitie, la
non,
barbe.
Non, mais, vous n'avez plus 16 ans et vous n'avez pas encore 30, mais c'est ça la question. Voilà. Difficile quand on a plus de 20 ans de faire 16.
Ouais.
Et ça ferait ridicule.
Tout à
et
fait.
Mais... on voit ça souvent. Et c'est vous ne l'avez pas fait. Et je crois qu'à mon avis, ils doivent apprécier ça.
C'est vraiment la magie. C'est là aussi où le théâtre est intéressant. Voilà, c'est la magie du théâtre. C'est que je dis que j'ai 70 ans, j'ai 70 ans. Je dis que j'en ai 13. Enfin, c'est le code de départ. Et voilà, le spectateur rentre avec nous là-dedans, quoi.
On va rappeler que le spectacle s'appelle Perdu pas loin, que c'est au Théâtre des 13 Vents dans la petite salle. Donc il y a une petite jauge, c'est maximum 100 places, je crois.
100 places, ouais.
Et ça se joue donc la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, et c'est tous les soirs à 19h.
Donc vous le recommandez vivement. Donc.
On a beaucoup aimé.
Je peux témoigner qu'ils sont ressortis après, ils m'ont téléphoné, ils étaient assez enthousiasmés par le spectacle. Merci de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre. Et on va se quitter avec Jean-Guy Denis, un vieux titre que j'ai retrouvé dans mes archives qui s'appelle Rose.
Bon.
Très bonne semaine théâtrale à tous et à la semaine prochaine.
Au revoir, maman.
Merci.
Bibi.
J'aime bien la couleur rose. C'est une couleur si triste. C'est la moindre des choses quand on a l'âme artiste. De quoi donc se compose ce ton intéressant? De deux doigts de lactose et de trois doigts de sang. La nuance juxtapose la grâce du flamand et la grâce ankylose du cochon infamant. Elle est dans tant de choses, dans le bonbon fondant, bébé de cellulose et pâte pour les dents. Elle est couleur d'hypnose quand elle va triomphant et qu'elle métamorphose le gris des éléphants. J'aime bien la couleur rose. C'est une couleur si triste. C'est la moindre des choses quand on a l'âme artiste. C'est la teinte qui s'impose pour l'enfant dans son nid et celle qui dispose à de menues manies. La veine qui arrose notre érotomanie, bibliothèque rose de Sophie Fichini, ballets et chaussons roses d'Ivan Tchaïkovski, baisers en overdose sur d'imberbes kiki, ou gamme des névroses, les plaides en rose exquis, beau bouquet d'échymoses sous le fouet du marquis.